Bienvenue dans Parcours Pro, le podcast original proposé par l'ADEBD. Camille Guionnet et Benoît Bréard de l'ADEBD vous invitent à découvrir le parcours d'un ancien diplômé. Aujourd'hui, nous recevons Éléonore Quentin de la promotion 2018 de l'EBD. Désormais documentaliste chargée de veille à l'INSEP, Éléonore a fait ses premiers pas dans des musées et dans le monde culturel.
Éléonore, merci tout d'abord d'avoir accepté d'échanger avec nous. Pour commencer, quel a été ton parcours avant d'arriver à l'EBD ?
Je viens d'un bac ES et j'ai fait une licence d'histoire-géographie à l'Institut catholique de Paris. J'habitais à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Lors de cette licence en histoire-géo, j'ai eu l'occasion de faire un stage en documentation et j'étais documentaliste iconographe pour un documentaire télévisé qui s'appelle « L'ombre d'un doute » qui était présenté par Franck Ferrand. Ce stage m'a bien plu et après je ne savais pas trop si je voulais persister là-dedans. Je suis partie, tout compte fait, dans un master en tourisme et patrimoine culturel et naturel en ayant comme objectif d'être plutôt dans les musées. Et travailler en documentation et médiation et musée. Et en fait, lors de ce master, j'étais un peu obligée de faire un stage en tourisme pur et dur, on va dire, en agence de voyage. Ça m'a pas beaucoup plu. Et j'ai fait un deuxième stage en tant que documentaliste au musée Eugène Delacroix, qui dépend du Louvre. Et c'était vraiment le stage révélateur, on va dire, où je me suis dit que la documentation, c'était quelque chose qui me plaisait bien. C'était assez polyvalent. C'est de la communication sur les réseaux sociaux, la médiation, la documentation, de la recherche dans les dossiers d'œuvres, dans les différents centres de documentation au musée d'Orsay, au musée du Louvre. Et après ce stage, je me suis dit, il faut peut-être que je me spécialise là-dedans. Je ne me voyais pas arriver comme ça sur le marché du travail avec un master en tourisme et vouloir faire de la doc. Donc j'ai regardé les formations qu'il y avait qui étaient professionnalisantes et je suis tombée sur l'EBD et je me suis inscrite et je suis rentrée à l'EBD.
Très bien, merci pour tous ces renseignements. Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté l'EBD ?
C'était vraiment pour me professionnaliser. Je voulais faire de l'alternance et me spécialiser vraiment dans la doc. J'avais été intéressée lors du stage au musée de la Croix par les bases de données muséographiques. C'était le tout début. Donc, il faut savoir que bien, il y a chaque œuvre en fait dans un musée a un dossier un peu comme un carnet de santé et que tout était vraiment papier petit à petit. Donc les musées développent des bases de données relationnelles pour pouvoir faire des liens entre les artistes, les expositions, les œuvres d'art, etc. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Je cherchais une spécialisation, une professionnalisation.
Tu as réussi à obtenir un stage ou une alternance dans ce milieu-là ?
La première année, j'étais pas trop sur les bases de données. C'est difficile, on va dire, de trouver une alternance vraiment en tant qu'administrateur de bases de données. Et j'étais au musée de l'immigration pour la première année, où j'ai fait un petit peu de veille, un petit peu de tout, des recherches documentaires, des produits documentaires, l'accueil du public, etc. Du traitement documentaire aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le catalogage, l'enregistrement de livres, de ressources dans une base de données. Et ma deuxième année, je l'ai faite en alternance aussi au musée des arts et métiers. Et là, j'ai travaillé plutôt sur la communication et la veille. Donc la communication sur les réseaux sociaux, sur le site web du musée. Donc en rédigeant les pages web qui étaient relatives au centre de doc. Et la veille, ça portait sur une expo sur la mesure. C'était une veille sur le soi connecté, le Quantify Self. Et en fait, au final, j'ai retrouvé le sujet des bases de données relationnelles avec mon premier boulot hors alternance, c'était la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers, et où j'étais justement chargée d'un projet de migration de données d'un outil à un autre. C'était PMB et on allait vers Kentica.
Et là, est-ce que les cours, en dehors des stages, est-ce que les cours que tu as reçus, suivis à l'EBD, ont été une aide très importante pour faire ce stage et ensuite tenir ce premier poste et faire ce travail de migration des données d'une base à une autre, enfin d'un outil à un autre? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui s'est fait relativement simplement du fait des informations et des cours que tu as eus à l'EBD?
Je pense vraiment que c'est une formation vraiment solide pour pouvoir avancer directement un projet dans le dur. Pour la migration, il fallait bien connaître son Unimark essentiellement et surtout savoir mener un projet. Et justement, je pense que la partie que j'ai préférée, c'est pas vraiment un cours, mais c'est le fait d'être responsable entièrement d'un projet de A à Z en lien avec son alternance. Donc en l'occurrence, c'était sur la communication. On apprend à fixer des objectifs, un rétro-planning, à travailler en équipe, à être responsable d'un projet, réaliser une fiche projet. Et dans la vie aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. C'est pas vraiment un cours, mais en tout cas, j'ai appris à le faire avec le BD. Je retire également les projets tels que création de site ou projet SharePoint. Ça a beau être un projet scolaire, en fait, c'est vraiment pragmatique. Ça apprend à connaître un outil et à savoir travailler aussi en équipe, parce qu'on travaille avec d'autres étudiants. Donc c'est les cours que j'ai retenus. Je pense aussi qu'on apprend à être de plus en plus à l'aise à l'oral devant un groupe, parce qu'on a des présentations à faire aussi. Pour moi, c'était très adapté. Je pense que ça tombait bien aussi. Moi, je l'ai fait après un master. Peut-être que ça n'aurait pas été pareil si j'avais fait après ma licence.
Le diplôme de sortie de l'EBD, c'est le diplôme de gestionnaire de l'information.
Oui.
Et justement, comment s'est passé ta sortie de l'EBD? Tu as réussi à trouver un travail facilement? Tu as accédé à combien de postes à la sortie de l'EBD?
Alors après l'EBD, eh bien, comme je l'ai dit, j'ai pu en interne trouver un emploi très facilement au Conservatoire National des Arts et Métiers. Donc ça s'est enchaîné en fait. J'étais donc chef de projet pour la migration de données. Et ensuite j'ai eu un autre poste à Arsena, donc c'est le Centre National du Théâtre des Arts de la Rue et du Cirque. En fait je suis restée que 3 mois parce que j'ai passé un concours en parallèle de la fonction publique. Et donc à Arsena, c'était un CDD qui était potentiellement et qui a été transformé en CDI par la suite. Donc j'ai vraiment pas eu de mal à trouver du travail. Et à Arsena, c'était aussi pareil, un projet en lien avec la migration de données et la création d'un portail documentaire. Il y avait toute une partie refonte totale du fonds, plan de classement, mise en réseau des différents acteurs. C'était vraiment une refonte totale du centre de documentation parce que le Centre National du Théâtre fusionnait avec celui des Arts de la Rue et du Cirque. Il fallait repenser l'entité, en fait. Et je suis restée, donc, comme je l'ai dit, que 3 mois parce que j'ai passé un concours ITRF. Je vais peut-être préciser.
Ce serait intéressant de savoir un peu quel est le contenu de ce concours et sur quoi il débouche, en principe, une fois qu'on l'a passé avec succès.
Donc c'est pas très connu. Donc ITRF, ça veut dire ingénieur technicien en recherche et formation, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un concours qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale et qui existe dans tous les domaines. Donc en fait, ça va de la biologie à la restauration d'œuvres d'art, qui vont plutôt être dans des établissements publics de recherche, dans les universités. Et donc moi, j'ai passé celui en lien avec tout ce qui est documentation. Et il y a différents grades pour chaque domaine. Il y a 16 domaines. Et j'ai passé, après, dans 16 branches, à chaque fois, il y a différents niveaux. Donc j'ai assistant ingénieur, au-dessus, c'est ingénieur d'études. Chaque niveau équivaut à un poste modèle, on va dire. Et après, dans le domaine assigné à un domaine. Donc en l'occurrence, moi, c'était assistant ingénieur en documentation.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, dans tes postes, ce concours?
En fait, on candidate pour un poste proposé par un établissement. En fait, c'est pas comme bibliothécaire où on passe le concours et après, on est n'importe où. C'est un établissement qui ouvre un concours et nous, on regarde l'établissement qui ont ouvert des concours et on peut candidater. Donc en fait, on sait où est-ce qu'on va. Donc là, moi, j'avais vu la liste des emplois ITRF ouverts et j'ai vu que l'INSEP proposait l'emploi assistant ingénieur en documentation.
Et du coup, c'est comme ça que tu as eu ton nouveau poste.
J'ai passé ce concours et je l'ai eu. Et c'était parce que après, ça, c'est le nom du poste type. Mais après, le poste spécifique, il y a une fiche de poste qui est disponible d'ailleurs 2 semaines ou 1 mois avant l'écrit. Et donc moi, c'était chargé de veille à l'INSEP. à l'Institut national du sport, de l'expertise, de la performance.
En quoi consiste ce que tu exerces encore actuellement? Là, il n'y a pas eu de changement depuis le succès à ce concours et le début dans ce poste à l'INSEP.
L'objectif de l'INSEP, c'est d'optimiser la performance des sportifs au niveau élite, donc c'est-à-dire les équipes de France en fait. Elle héberge 19 sports, surtout des sports de combat, donc comme l'escrime, le judo, le taekwondo, la lutte. Il y a un sport collectif, c'est le basket. Et pour le coup, là, on a les espoirs qui peuvent aller en équipe de France, mais on n'a pas l'équipe de France. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que historiquement, l'INSEP, c'est l'école de moniteurs sportifs qui allait enseigner le sport aux soldats. Et en fait, on voit qu'au niveau des sports qui sont hébergés à l'INSEP, eh bien, ça a été conservé. On n'a pas beaucoup de sports collectifs. On n'a que des sports qui peuvent être utiles, en quelque sorte, pour le soldat. Comme je suis chargée de veille, la raison pour laquelle j'ai été recrutée, eh bien, c'est de réaliser, on va dire, deux veilles. La première, c'est une veille sur la haute performance sportive à destination des entraîneurs qui ont des athlètes au niveau international. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les remettre en question, de leur donner des fiches pratiques aussi en tout ce qui va être science et nouvelles technologies. Comme c'est des experts, la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu être remis en question ou avoir des éléments un peu disruptifs pour réfléchir, parce qu'ils ont quand même un staff autour qui permet de les informer sur des sujets très précis. Et une seconde veille qui est sur le suivi socio-professionnel du sportif. Et là, pour le coup, c'est d'informer tous les référents au niveau national sur le suivi socio-professionnel du sportif, sur les dispositifs qui existent, sur les projets qui existent. En ce moment, avec les JO, il y a énormément d'initiatives qui naissent. En effet, le sportif, il a sa carrière sportive, mais il faut aussi qu'il prépare l'après, parce qu'il ne peut pas faire du sport toute sa vie. Donc là, c'est important d'assurer en quelque sorte son équilibre. Donc c'est deux veilles que je réalise, et là, il y a une troisième veille plutôt sur l'innovation produit qui est en cours de réflexion, elle n'est pas encore tout à fait au point, on n'est pas encore tout à fait sûr de la mettre en place non plus, pour savoir quels sont les derniers produits qui sont utilisés pour la performance, par exemple les objets connectés, mais aussi les vidéos, les caméras spécifiques pour suivre un athlète. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai été recrutée, c'était pour la veille.
Les sources de cette veille, c'est quoi? C'est la presse, c'est des sources très spécialisées?
Ça va être des sources très spécialisées, un petit peu la presse, mais c'est surtout des blogs, c'est beaucoup en anglais, un petit peu de veille scientifique, un petit peu, mais il faut vraiment que les articles scientifiques soient très adaptés au terrain. Je suis beaucoup les blogs, par exemple il y a un blog du Barça, il y a un blog spécialisé en préparation physique, quasiment tout est en anglais, donc je lis beaucoup en anglais.
Et quand tu es arrivé sur le poste, les outils étaient déjà mis à disposition ou tu as construit tout ton environnement de veille?
Non, il n'y avait vraiment rien. Et je suis la seule à faire de la veille à l'INSEP. J'aimerais mettre en place quelque chose, un réseau ou quelque chose, mais je ne sais pas encore exactement comment. Et là, au niveau du contexte, c'était un petit peu dur de faire valoir ces idées-là. Mais là, j'ai une responsable qui est arrivée aujourd'hui même. Donc peut-être que ça va changer. Mais c'est difficile de mettre en place un réseau et de l'animer. C'est peut-être quelque chose où je suis peut-être moins à l'aise ou moins douée, mais quelque chose que j'aimerais peut-être faire.
Et parmi les activités que tu fais au sein de l'INSEP, c'est juste la veille ou est-ce que tu as des activités annexes?
C'est vrai que moi j'aime beaucoup la polyvalence, j'aime beaucoup faire des choses différentes. Et je pense personnellement que faire que de la veille, ça serait très très difficile. En ce moment, par exemple, je suis en train d'organiser une rencontre avec un auteur la semaine prochaine. J'organise des animations. Je donne des cours aussi en méthodologie de la recherche pour les licences et les masters qui sont à l'INSEP. Donc c'est orienté STAPS et performance. Il y a aussi une partie où je suis responsable des périodiques sur le projet plan de conservation partagée pour l'instant des morts. Et je suis aussi responsable de l'audiovisuel, donc l'acquisition de tout ce qui est des DVD, la gestion de la plateforme Arte. C'est pas une grande charge de travail. On a aussi le projet de faire de la bibliothèque un tiers-lieu, en lien avec le pôle qui est orienté à l'accompagnement scientifique. Et donc on travaille aussi sur la signalétique, sur l'adaptation des usages, on va dire la cohabitation des usages dans la bibliothèque. C'est assez varié en fait.
Ce qui est intéressant dans le parcours, ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est qu'on est parti d'un parcours à l'origine très culturel, hein, des musées, de la peinture, des lieux de culture aux lieux de sport, et visiblement, ça ne pose aucun problème.
Je pense que le sujet, en fait, il faut qu'il nous intéresse. Mais après, on a les outils, on a les techniques pour s'adapter à tout contexte. Et c'est ça qui me plaisait bien d'ailleurs avec ces études, c'est que on peut aller un peu partout, hein, parce que quand on demande à ceux qui font du travail dans les bureaux, la plupart du temps, ils gèrent de l'information. Et nous, on apprend à gérer de l'information. Donc, tout ce qui est des projets technologie de l'information, on est apte, je trouve, en sortant de l'EBD, à travailler. On peut s'adapter, histoire des techniques, histoire du cirque, enfin, et le sport. C'est vrai que moi, j'ai le souvenir que dans l'EBD, mes camarades, ils étaient aussi bien des industries cosmétiques que dans le BTP, en pharmaceutique. Enfin, il y a vraiment tout que dans le juridique. En fait, c'est vraiment des outils et après, on peut aller là où ça nous plaît.
Est-ce que ce serait justement le conseil que tu donnerais aux étudiants de l'EBD de faire en sorte de s'adapter au milieu dans lequel ils souhaitent travailler?
Je pense que l'adaptation est essentielle. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est de faire ce qui leur plaît et de pas trop penser à le CV, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bien pour avoir un bon match. Surtout, faites ce qui vous plaît et tous les parcours se valent, en fait, c'est la manière dont vous allez le défendre qui est important. Donc, si vous, ça vous a plu, forcément, ça passera très bien, c'est ce qu'il faut, quoi.
Bien, ben merci beaucoup, Éléonore. On aurait encore beaucoup de choses à dire. Ce parcours est quand même assez intéressant, et on voit quand même que même dans un lieu aussi ancien, qui n'est quand même pas un lieu très récent, il y a beaucoup de choses à faire en matière de doc et de gestion de l'information au sens large du terme, et que il y a de la place pour un ancien élève de l'EBD, il y a de la place pour faire des choses et des choses variées et très intéressantes. Est-ce qu'il y a de la place pour des activités en dehors du travail aussi, ou l'essentiel est dans le travail?
On a de la chance, on a la possibilité d'utiliser les infrastructures sportives le midi et certains soirs. Donc voilà, il y a du basket, du badminton, du volley, la piscine olympique. On est dans le bois en plus, on est en bois de Vincennes, donc on peut aller courir très facilement. Pour ça, on est vraiment bien loti. Après, c'est vrai que moi, mon sport de prédilection, c'est l'escalade. Il n'y a pas de mur d'escalade ici, mais c'est pas très grave, ça me permet de découvrir d'autres sports.
Est-ce que des étudiants de l'EBD peuvent venir en stage, ou en tout cas postuler pour venir en stage au sein de l'INSEP ou...
On a déjà eu une stagiaire qui était venue ici pendant, je crois, un mois ou deux, je crois. Et le BT est bien représenté parce que j'ai deux autres collègues qui m'ont aussi fait le BT.
Très bien. Ben, écoute, merci encore une fois, Éléonore. On se rend compte que voilà, le BD a toute sa place au sein de l'INSEP, et c'est toujours une bonne chose de savoir que des nouveaux étudiants peuvent postuler, et que les anciens étudiants y ont une place a priori reconnue. Bonne suite professionnelle, et peut-être à bientôt dans le cadre de la DEBD.